Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église est marquée notamment par la poursuite du voyage apostolique du pape en Chypre et en Grèce. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Sénégal, au Niger et au Bénin, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité de l'Église par le voyage du pape. C'est depuis jeudi 2 décembre que le Saint-Père a entamé son 35e voyage apostolique en Chypre et en Grèce. Le vendredi a donc marqué le deuxième jour de ce périple. Françoise Niamien nous en parle.
Le deuxième jour du 35e voyage apostolique du pape s'est passé à Nicosie, la capitale chypriote. Le Saint-Père a tout d'abord rendu une visite de courtoisie à sa béatitude Chrysostomos II, archevêque orthodoxe de Chypre, à l'archevêché orthodoxe de Chypre à Nicosie. Cette rencontre s'est conclue avec un échange de dons. À sa béatitude Chrysostomos II, le pape a fait don du Codex Pauli, un tome unique de 424 pages, publié à l'occasion du bimillénaire de la naissance de l'apôtre Paul. Je vous le donne pour que vous l'ayez en signe de communion de la part des fils de la même Église mère, a déclaré François à la remise de ce don à l'archevêque orthodoxe de Chypre. Vendredi, François a aussi eu une rencontre avec le Saint-Synode et une prière écuménique avec les migrants après avoir célébré la messe au stade de Nicosie. C'est dans la cathédrale orthodoxe de Chypre qu'a eu lieu la rencontre avec le Saint-Synode, autorité majeure de l'Église orthodoxe autocéphale de Chypre. Dans son discours, le Saint-Père a commencé par souligner l'origine apostolique commune des orthodoxes et des catholiques, car Saint-Paul est passé par Chypre avant d'aller à Rome. Le Saint-Père a ensuite évoqué la figure de Saint-Barnabé, particulièrement les deux significations liées à son nom, fils de la consolation et de l'exhortation. Barnabé nous exhorte à porter l'évangile aux hommes en portant attention à leurs questions, à leurs besoins. Il s'agit d'aller jusqu'à des rencontres personnelles, des rencontres qui peuvent aller jusqu'à la communion synodale. Ensuite, Barnabé est présenté dans les Actes des Apôtres comme un lévite originaire de Chypre qui a su se dépouiller pour permettre la plénitude de l'unité avec la première communion chrétienne. Ceci nous pousse à abandonner ce qui peut compromettre la plénitude de la communion, le primat de la charité et la nécessité de l'unité, a encore dit le Saint-Père. Aujourd'hui, à l'exemple de Saint-Barnabé, qui est passé par cette île, l'Esprit-Saint nous invite à laisser nos divisions du passé et à nous rapprocher pour travailler ensemble. Cela ne sera pas sans épreuve et sacrifice, a par ailleurs dit François. Après cette rencontre avec le Saint-Synode, le pape a célébré la messe au Pan Cyprian Gymnastic Association Stadium, le stade de Nicosie. En la mémoire du Saint-François Xavier, patron des missions, dans son homélie, François a exhorté à suivre l'exemple des aveugles guéris par Jésus, dont l'Évangile. Nous nous fatiguons de porter nos problèmes à Jésus. Apprenons à faire face à nos problèmes ensemble pour construire un nous fraternel qui peut nous guérir de l'individualisme et de la prétention à l'autosuffisance. Et soyons enthousiastes de partager la joie, surtout celle de l'annonce libératrice de l'Évangile, a particulièrement encouragé le Saint-Père. Signalons que près de 10 000 personnes ont participé à cette messe. Parmi les concélébrants, on notait la présence de sa béatitude Pierre-Baptiste Pisabal, patriarche des Latins de Jérusalem, ainsi que le patriarche Béchararaï des Maronites. Cette deuxième et dernière journée du pape à Chypre s'est conclue avec la prière œcuménique avec les migrants en l'église catholique de Sainte-Croix. Les migrants ne sont pas des étrangers, mais des concitoyens, des frères dont il faut reconnaître la dignité grâce à l'ouverture confiante en Dieu, a exhorté le Saint-Père dans son discours. Notons aussi que le discours de François était précédé par des témoignages de 4 jeunes migrants, dont 2 provenaient de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Étaient également présents les patriarches Pissabala et Béchararaï, ainsi que Madame Elisabeth de la Caritas.
Signalons qu'à son retour à l'annonciature après la messe, le Saint-Père a rencontré le rabbin en chef de Chypre et à travers lui a envoyé des salutations à la communauté juive de Chypre. François s'est également entretenu avec la directrice de la prison de Chypre qui lui a apporté un don de la part des détenus, parmi lesquels des migrants sans papiers. Le Saint-Père a adressé un message aux participants à la 7e conférence de Med Dialogues qui se tient à Rome. Cette conférence est organisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que par l'Institut des études politiques internationales. Elle vise à repenser le problème de la mer Méditerranée par laquelle passent les migrants. Le pape invite à trouver une nouvelle approche dans la gestion des ressources de la Méditerranée, une approche nouvelle qui ne soit pas individuelle, ni égoïste, ni conflictuelle. Le Saint-Père invite par ailleurs à une bonne gestion du phénomène migratoire. Le prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Raniero Cantalamessa, a entamé vendredi ses prédications de l'Avent pour les membres de la curie romaine, centrant sa réflexion sur le thème « Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons adoptés comme fils ». En voyage au Tchad, le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, a eu une rencontre avec les leaders religieux.
Son éminence Peter Cardinal Turkson a accueilli en cette matinée du 27 novembre 2021 les leaders religieux de la plateforme interconfessionnelle. Il s'agit de Mgr Edmond Ditangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, accompagné de l'abbé Romé Guelbé, coordonnateur de la plateforme, le cheikh Abdoudaïm Ousmane, secrétaire général du Conseil supérieur islamique, et le révérend pasteur Madibaï Djimalgar de l'Entente des Églises et Missions évangéliques au Tchad. Après les mots le bienvenu du chargé d'affaires à l'annonciature, Mgr Mihaita Blaj, son éminence et ses hôtes sont passés à la salle de réunion pour des échanges. D'entrée de jeu, le coordonnateur de la plateforme, Abbé Romé Guelbé, a fait une brève présentation de la plateforme, sa genèse et ses objectifs. Pour l'abbé Romé Guelbé, la plateforme interconfessionnelle œuvre dans la collaboration des leaders religieux pour promouvoir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Son éminence Peter Cardinal Turkson a pour sa part encouragé les initiatives de la plateforme et a exhorté les leaders religieux à poursuivre ses objectifs, combien nobles aujourd'hui pour notre monde en perpétuelle mutation. Il conclut en promettant de la disponibilité de son digasteur à soutenir les initiatives de la plateforme. Souverain Ngatolum pour Radio Vatican.
Au Togo a eu lieu la célébration de la clôture des festivités marquant les 65 ans du mouvement jeune étudiant catholique.
La paroisse Saint-Paul de Podi dans le diocèse de Palimé a eu l'honneur d'accueillir en ce premier dimanche de l'Avent la célébration de la clôture des festivités marquant les 65 ans du mouvement jeune étudiant catholique au Togo. C'était au cours d'une messe pontificale présidée par son Excellence Mgr Benoît Alonou, évêque du diocèse de Palimé et président de la Conférence des évêques du Togo. Les aumôniers des diocèses et l'aumônier national de la GEC Togo, le révérend père Christian Ali Guinou, ont concélébré à cette messe. Dans l'homélie de circonstances qu'il a prononcée, Mgr Benoît Alonou a invité les jeunes étudiants catholiques à la vigilance. Le temps de la jeunesse est un temps de risque. Il faudra faire attention aux séductions et tentations de ce monde qui prennent de multiples formes en vue de détruire l'humanité. Accrochez-vous à la parole de Dieu, à Jésus qui est vérité et qui est vie, et devenez ses amis, a-t-il exhorté. Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso a eu lieu la rencontre sur la pastorale et la sécurité. Les détails avec notre correspondant local.
La crise sécuritaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest fait de plus en plus de ravages avec la prolifération de groupes armés terroristes et la recrudescence d'attaques djihadistes détruisant désormais aussi bien les services sociaux que les édifices et domaines religieux et autres lieux de culte, sans oublier les massacres de paisibles populations. Ceci rend impossible la pastorale dans certaines zones du pays. Malgré tout, l'Église Famille de Dieu espère une issue heureuse par la résilience et c'est tout l'objet de ce forum du 29 novembre au 3 décembre sur la pastorale et la sécurité avec pour thème « Défis sécuritaires au Burkina Faso et au Niger, quelle pastorale pour l'Église Famille de Dieu ?» Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, en indique la voie de sortie.
De cette crise, nous allons nous en sortir en vivant de la culture de la rencontre, en nous écoutant, en dialoguant, en cherchant le bien des autres et en priant avec insistance selon l'invitation de Saint Paul aux Thessaloniciens.
Dans son discours d'ouverture, le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré, précise les objectifs de ce forum.
Et 5, recenser les pertes en vies humaines et en infrastructures ou matérielles, en ayant à l'esprit que c'est la cause qui fait le martyr.
Tout en saluant cette initiative ecclésiale concertée, le nonce apostolique au Burkina Faso et au Niger, Mgr Michael Crotty, a réaffirmé aux victimes du terrorisme.
La proximité et la forte compassion du Saint-Père, le pape François.
Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
Célébration de la journée mondiale de personnes porteuses de handicap en Côte d'Ivoire, notre correspondant local nous en parle.
Célébrée chaque année, la Journée internationale des personnes en situation de handicap est une journée cruciale pour elle. Anne-Christelle Nicorissi, souffrant d'une polyarthrite depuis 29 ans, nous partage la joie qui l'anime suite au message du pape François et de l'Église en cette journée qui leur est dédiée.
Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui pense à vous. Et si le pape pense à nous, ça nous fait plaisir. Et puis si l'Église pense à nous, ça nous fait encore également plaisir. Sachant que nous sommes les amis du Seigneur. Ce que nous vivons chaque jour, nous le vivons avec le Seigneur. C'est pas facile, c'est pas du tout facile de vivre chaque jour en permanence des douleurs. Pour moi, dans mon cas, je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis 29 ans. Vous voyez un peu tout ce que j'ai traversé comme étape pour arriver à ce stade. Et là, je suis à un niveau vraiment, si je peux dire phase terminale. Et là, je n'ai plus de synovie entre les os et c'est vraiment douloureux. C'est la douleur au quotidien. Je vis ma foi au quotidien, comme je le peux. Je fais tout dans la chambre. C'est pas facile. De ma fenêtre, je vois dehors. Et puis bon, je vis dans la prière parce que c'est seule la prière me rapproche de Dieu. Seule la prière m'aide à tenir le coup.
Dans le diocèse de Yopougon, le père Roland Malan, responsable du service diocésain des personnes en situation de handicap, les invite à ne pas se sentir délaissés, mais à prendre toute leur place dans l'Église et dans la société.
Qu'elles ne se sentent pas blessées, mais l'Église les soutient dans leur handicap. Elles ont leur place dans l'Église. Elles ont leur place au milieu de tous ceux qui se disent aujourd'hui bien portants.
Marcel Ariston Oblé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les transporteurs sénégalais ont durci vendredi leur grève, annonçant mener désormais un mouvement illimité pour protester notamment contre les tracasseries des forces de l'ordre malgré l'appel à l'État à négocier. À Dakar et en province, ce sont les mêmes scènes que les deux premiers jours du mouvement, jeudi et vendredi, avec des routes quasiment vidées de véhicules de transport de passagers et de biens, selon des journalistes et des témoins. Dans plusieurs localités, le trafic est notamment assuré par des motos et des véhicules hippomobiles. Des bus de la société de transport ont été empêchés de rouler en province par des transporteurs. Beaucoup de travailleurs n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail, des élèves à leur école comme à Dakar. Le gouvernement campe sur sa position. Nous campons sur notre position, a déclaré vendredi Gora Kouma, responsable du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, à l'origine de la grève initialement limitée à 2 jours. Le ministre chargé des transports terrestres a déclaré jeudi soir sur la télévision publique être prêt à rencontrer les grévistes pour discuter avec eux et au nom de ses collègues ministres. Un appel qui n'a pas été entendu par les transporteurs. Deux militaires ont été tués dans la nuit du 1er au 2 décembre par des djihadistes dans la région de Porga, dans le département de l'Atakora, dans le nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. Des djihadistes ont attaqué en riposte à la mort de l'un des leurs. Dans un discours retransmis à la télévision nationale jeudi soir, le colonel Didier Awanvedo, porte-parole de l'armée, a quant à lui évoqué une attaque menée par des individus non identifiés plutôt que par des djihadistes. Des agents des forces de défense et de sécurité du Bénin en position de surveillance de la zone frontalière ont été pris à partie par des individus non identifiés, a-t-il affirmé. Le Niger a réceptionné fin novembre près d'un million de doses de vaccins contre la COVID-19, portant à plus de 3 millions le nombre de doses offertes depuis mars à ce pays par la communauté internationale. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'UNICEF à Niamey. Depuis début novembre, les autorités nigériennes signalent une augmentation du nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans la capitale et dans les régions d'Agadez, Zinder, Tawoua et Dosso. Le Niger s'est fixé pour objectif de vacciner 30% de la population d'ici décembre, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Le président tunisien Kais Saied a décidé jeudi de faire célébrer l'anniversaire de la révolution de 2011, le 17 décembre, jour de son lancement, faisant valoir que la date actuelle du 14 janvier, censée marquer sa fin, n'était pas appropriée. Le 17 décembre est le jour de la fête de la Révolution et ce n'est pas le 14 janvier comme cela avait été annoncé en 2011, a dit M. Saied à l'ouverture d'un conseil ministériel au palais présidentiel de Carthage. Selon M. Saied, l'explosion révolutionnaire est partie de Sidi Bouzid, dans le centre-ouest de la Tunisie, le 17 décembre 2010, jour de l'immolation par le feu du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi. Cet acte a provoqué un soulèvement populaire ayant mis fin au règne du président Zine El Abidine Ben Ali après 23 ans au pouvoir.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur les organisations internationales et la solidarité avec Donatien Niembo.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale au cours de la semaine. Le parti conservateur autrichien a désigné vendredi comme son nouveau chef le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer, qui va ainsi devenir le prochain chancelier après le départ de Sebastian Kurz. En Turquie, l'inflation a atteint vendredi un nouveau plafond en 3 ans et dépassé officiellement les 21% sur 1 an, conséquence de la dégringolade de la monnaie, enfonçant encore davantage le pays dans le marasme. Les Émirats arabes unis ont signé vendredi un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale construits par le groupe français Dassault Aviation à l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, a indiqué l'Élysée. Par ailleurs, 10 ONG et des magistrats ont interpellé Emmanuel Macron, inquiet que la France ne devienne une terre d'impunité pour les tortionnaires syriens si la loi ne changeait pas concernant la compétence universelle dont l'exercice est rendu impossible juridiquement pour les crimes les plus graves. La police vietnamienne a démantelé un vaste réseau d'escroqueries via des paris en ligne utilisant des crypto-monnaies dont les revenus s'élevaient à environ 3,8 milliards de dollars, ont annoncé vendredi les médias d'État. Au moins 10 personnes, 3 civils et 7 combattants des Peshmerga kurdes ont été tués dans une attaque imputée au groupe État islamique dans le nord de l'Irak, ont annoncé vendredi ses forces dans un communiqué. Le ministre libanais, dont les propos sur la guerre au Yémen avaient provoqué une grave crise diplomatique avec les États du Golfe, a indiqué qu'il démissionnerait vendredi pour donner une chance à son pays, le Liban. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Canada ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques contre les Bélarusses, accusés de violations répétées des droits humains et d'organiser le passage de migrants vers l'Union européenne. Un gendarme a été blessé dans le cadre des violences et barrages bloquant depuis 2 semaines les Antilles françaises et qui ont entraîné jeudi la prolongation du couvre-feu en Guadeloupe et en Martinique. La Commission européenne avait appelé mercredi les pays de l'Union européenne à réfléchir dès maintenant à la vaccination obligatoire contre le coronavirus dont le variant Omicron continue de se propager dans le monde, poussant les États à imposer de nouvelles restrictions de déplacement. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, avait jugé inutiles les interdictions de voyage pour endiguer la propagation du nouveau variant du coronavirus Omicron. Le procès sur l'incendie d'une discothèque qui avait fait 242 morts au Brésil, en majorité des jeunes, s'est ouvert mercredi avec des témoignages émouvants dans l'état méridional de Rio Grande do Sul, près de 9 ans après la catastrophe. L'ex-président argentin Mauricio Macri a été inculpé mercredi d'espionnage présumé de familles des victimes de San Juan, un sous-marin dont le naufrage avait fait 44 morts en 2017, une inculpation qu'il a aussitôt qualifiée de persécution politique. Des paléontologues chiliens avaient présenté mercredi des résultats de leurs recherches sur les Stegouros et Lengacènes, dinosaures dont un squelette a été découvert presque intact il y a 3 ans en Patagonie Sud et qui déconcerte les scientifiques par sa queue. La droite au pouvoir au Honduras avait reconnu mardi le triomphe de la candidate de la gauche Xiomara Castro, qui devance d'une 20aine de points son adversaire à l'élection présidentielle, selon des résultats partiels portant sur plus de la moitié des suffrages. Par ailleurs, mardi, la justice allemande avait condamné un djihadiste irakien pour génocide de la minorité yazidi, une première au monde saluée par la prix Nobel de la paix Nadia Mourad comme une victoire pour la reconnaissance des exactions commises par l'organisation État islamique.
Christian Combé présente la rubrique sur l'environnement.
Commençons cette rubrique environnement avec la Sierra Leone qui vient de nommer une collaboratrice dédiée à combattre la chaleur extrême qui accable de plus en plus sa capitale, Freetown. Eugenia Kargbo, une de premières à un tel poste en Afrique, entend impliquer les partenaires officiels mais aussi les communautés défavorisées les plus exposées. Les villes sont les plus touchées par les effets de la chaleur extrême. Freetown ne fait pas exception, dit-elle dans son bureau à la municipalité. Freetown, située au bord de l'Atlantique, avait déjà entrepris en 2020, avec le soutien des Nations Unies et d'une organisation catholique américaine, de planter 1 million d'arbres en 3 ans. La maire Yvonne Aki Sawyer, une professionnelle de la santé diplômée à Londres et distinguée autrefois par son engagement contre Ebola, a promis de transformer la capitale de plus d'1 million d'habitants qui a fait d'elle la première femme élue à sa tête en 2018. La restauration d'un environnement dégradé et l'assainissement d'une ville dont la moitié des administrés n'ont pas accès à l'eau courante figurent parmi ses grands chantiers. L'histoire contemporaine de Freetown est marquée par les épreuves climatiques. En 2017, un gigantesque glissement de terrain après des jours de pluie intense avait fait des centaines de morts dans la banlieue de Freetown. En novembre dernier, l'explosion accidentelle d'un camion-citerne avait fait près de 150 morts. En Côte d'Ivoire, relance de la pisciculture et diffusion d'une souche améliorée de tilapia. En vue de relancer la pisciculture après la grave crise politico-militaire que le pays a traversée, le gouvernement ivoirien avait décidé d'introduire une souche brésilienne améliorée de tilapia depuis juillet 2014. C'est au Centre national de recherche agronomique que le gouvernement, à travers le ministère des ressources animales et halieutiques, a confié la responsabilité d'étudier le comportement de cette souche brésilienne dans l'environnement ivoirien. Après 16 mois d'utilisation de cette souche, un atelier de restitution des résultats a été organisé lundi 29 novembre à Boaké. Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus au terme de ce projet, les pisciculteurs ont dorénavant à leur disposition cette souche qu'ils peuvent obtenir auprès des pisciculteurs multiplicateurs qui sont dans les zones où le projet a été exécuté. Au Cameroun, le ministère de l'Environnement a lancé mercredi 1er décembre à Yaoundé l'atelier de lancement du projet intitulé « Neutralité de la dégradation des terres et atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans la zone afro-écologique soudano-sahélienne du Cameroun ». Cette rencontre a été organisée avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Il s'agit en fait d'un projet qui s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques avec un accent sur le reboisement. À Madagascar, une nouvelle méthode de surveillance des aires protégées a été lancée. La surveillance des forêts humides de la Tinanane s'effectuera à travers la nouvelle technologie. Les forêts humides de la Tinanane restent sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en péril, plus de 10 ans après son déclassement. Les pressions sont encore d'actualité dans les aires protégées. Au Canada, 3 chevreuils du Québec ont été infectés par la COVID-19. Les premiers cas signalés chez une espèce sauvage au Canada a annoncé le gouvernement fédéral mercredi. Le 29 novembre, le Centre national de maladies animales exotiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a confirmé les premières détections du SARS-CoV-2 chez 3 cerfs de Virginie, appelés également chevreuils du Québec, sauvages au Canada, a précisé le ministère de l'Environnement dans un communiqué. De récents rapports ont permis de prouver qu'aux États-Unis, la COVID-19 a été transmise par des humains à des cerfs de Virginie sauvages, mais à l'inverse, aucun cas de transmission des cerfs aux humains n'a été détecté, selon le ministère de l'Environnement.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Njina ifanye shangwe Visiwa vingi na vifurahi
Asambeni Moko kuhanya
Wanyakwenu
Na wangu yake ipamonya nasi Kama liko yake ya kumere
Zimetangaza haki yake Wote wameuona utukufu wake